Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le Niger est en deuil après un nouveau drame de l'immigration. Vendredi, jour de la Toussaint, le pape François a demandé une prière spéciale pour les 92 migrants morts en plein désert sur la route vers l'Algérie. Vous entendrez dans ce magazine le père Armanino, responsable de la pastorale des migrants du diocèse de Niamey. Nous nous attarderons ensuite sur un thème qui est actuellement au centre d'une rencontre internationale au Vatican, la traite des êtres humains et l'esclavage moderne. Illustration à RDC avec le père Hugeux, missionnaire dans le pays. Et puis comme chaque samedi, vous avez rendez-vous avec Sœur Catherine Aubin et son livre pour Dieu avant le commentaire de l'Évangile. Bienvenue dans ce magazine. Après avoir célébré la solennité de tous les saints, l'Église commémorait ce samedi 2 novembre tous les fidèles défunts. Le pape François s'est rendu à cette occasion dans la crypte qui se trouve sous la basilique Saint-Pierre, où il a prié pour les pontifes défunts. Une visite strictement privée. La veille, depuis le cimetière romain du Verano, le Saint-Père avait invité les fidèles à prier pour les quelques 90 migrants morts de soif et de faim dans le désert du Niger et dont les cadavres ont été retrouvés près de la frontière avec l'Algérie. Le Niger observe depuis vendredi 3 jours de deuil national après ce drame. Derrière ce phénomène migratoire se cache un véritable commerce d'êtres humains. Jean-Baptiste Cocagne.
Avec la moitié de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté, le Niger compte parmi les pays les plus pauvres au monde. Cette situation pousse de nombreuses personnes à quitter le pays en quête d'un avenir meilleur ailleurs. Ils ont l'Algérie ou la Libye pour destination finale, ou bien comme une autre étape vers l'Europe. Si les phénomènes migratoires ont toujours existé au Niger, carrefour au cœur du Sahel, le père Mauro Armanino déplore aujourd'hui le nombre croissant de femmes et d'enfants qui partent dans le désert. Pour le responsable de la pastorale des migrants du diocèse de Niamey, la capitale, cette évolution cache un commerce d'êtres humains.
Disons franchement que d'un certain point de vue, même si ce n'est pas admis, la migration intéresse dans le sens qu'on débarque des problèmes, des jeunes qui risquent d'être désœuvrés. Et en même temps, pour ceux qui vont, il y a un retour avec des recettes. Il y a une économie, il y a une politique où les personnes ne sont plus des personnes, mais c'est des marchandises. Il faut se demander si, au-delà de la réaction un peu émotive, comme nous avons eu en Italie pour la question de Lampedusa, mais en réalité, est-ce qu'on met en discussion les politiques qui créent cet état de situation. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont là et qui partiront de toute manière. On ne va pas arrêter ça.
La réponse doit donc être politique et régionale, car au-delà du Niger, c'est toute la zone du Sahel qui est concernée. Un énorme défi pour des États fragilisés et des sociétés appauvries. Les perspectives d'avenir sont en effet fragiles. Au Niger, les jeunes de moins de 25 ans, qui représentent 60% de la population, préfèrent partir.
Il n'y a pas de perspective politique et économique qu'on est en train de donner à ces pays. Pour la vie réelle des gens, à part une petite classe moyenne qui est en train de se solidifier, surtout des commerçants et ceux qui tournent autour des politiciens, mais c'est la débandade absolue.
La seule mesure concrète prise par le gouvernement nigérien a été vendredi dernier la fermeture immédiate des camps de clandestins de la ville d'Agadez, au nord du pays, principale zone de transit des migrants à destination des pays voisins. Des camps, ou plutôt des ghettos, comme ils ont l'habitude d'être surnommés.
Mais qui ne savait pas que cela était en train de se faire? Ça avait été déjà dénoncé. Il y a eu même des enquêtes, des études sur ces ghettos qui engraissent beaucoup de monde. Et peut-être certaines villes existent encore grâce à ce type-là de phénomène.
La chute du régime du colonel Kadhafi en Libye n'a fait qu'empirer cette situation. Depuis le mois de mars, selon l'ONU, ce sont 5000 migrants par mois qui ont transité par Agadez afin de se rendre en Libye.
La La traite des êtres humains, l'esclavage moderne, c'est précisément le thème d'une rencontre voulue par le pape François qui se tient ce week-end au Vatican. Nous vous en parlions dans notre précédente émission. Cette réunion de travail est organisée par l'Académie pontificale des sciences et l'Académie pontificale des sciences sociales en partenariat avec la Fédération mondiale des associations médicales catholiques. Elle rassemble des responsables d'institutions et organisations qui luttent contre la traite des êtres humains, des chercheurs venus de nombreux pays et des personnalités religieuses. Parmi les participants, le cardinal Roger Tchegaray, vice-doyen du Collège des cardinaux, il a pris la parole ce samedi matin à l'ouverture des discussions. On l'écoute.
Maintenant, l'esclavage prend une nouvelle forme, une forme moderne. Pour moi, c'est plus fort et plus juste de parler du trafic des êtres humains. Et les gens ne se rendent pas compte, parce que les consciences de beaucoup sont déformées ou assoupies. Alors, si le pape, car c'est le pape qui a voulu avant tout cette rencontre avec les grands spécialistes, c'est pour justement réveiller et éclairer davantage la conscience de nous tous, pour montrer la grande menace qui est avec ce développement qui est vraiment international dans tous les continents, de le trafic des êtres humains, et spécialement, on pense aux femmes et aux enfants.
Le cardinal Tchegaray au micro de Francesca Sabatinelli. Chaque jour, des dizaines de millions de personnes vivent dans le désespoir et la servitude. Ces esclaves modernes, hommes, femmes et enfants, constituent une main-d'œuvre sans voix, sans défense et corvéable à merci. La misère et l'espoir d'une vie meilleure les poussent dans les mains d'exploiteurs sans scrupules qui les affament, les maltraitent et les terrorisent. Selon les Nations Unies, plus de 20 millions de personnes ont été victimes du travail forcé entre 2002 et 2010. Parmi les pays concernés, la République démocratique du Congo. Nous en parlons avec le père blanc Bernard Hugeux, missionnaire en RDC.
Tous les lieux où les gens sont forcés par la situation même de leur pauvreté, de leur misère, de leur famine, à se laisser employer pour des prix absolument dérisoires et des travaux excessivement lourds qui font qu'en définitive, même si personne ne les force à être employés dans ces entreprises, en fait, c'est eux-mêmes qui se présentent, mais ils n'ont pas le choix parce que c'est une question de survie. Donc on peut dire que d'une certaine façon, ils sont esclaves d'une injustice structurelle qui fait qu'ils vont aller se mettre au service de personnes qui vont profiter du fait qu'ils sont prêts à n'importe quoi pour survivre, ou dans le cas des femmes, pour pouvoir nourrir leurs enfants ou payer l'école, si bien qu'on peut dire qu'ils sont en situation objective d'esclavage. Alors on peut donner comme exemple des femmes ou des enfants qui travaillent dans la construction, des femmes qui portent des charges très très lourdes, parfois plus lourdes même que leur propre poids corporel, pour les amener du port au marché en gagnant l'équivalent de moins d'un euro par jour. Ça peut être aussi des petites bonnes qui se retrouvent venant des villages pour se mettre au service de familles riches et qui sont abusées, soit par un travail où il n'y a pas d'heure, mais aussi par les hommes de la maison. Et ça, c'est de l'esclavage contemporain.
Les personnes qui les esclavagisent d'une certaine manière, même si le terme n'est pas forcément celui qui est adapté, ces gens-là sont des personnes qui viennent de RDC ou est-ce que c'est des personnes étrangères ?
La plupart du temps, ce sont des nationaux, des entrepreneurs locaux, mais vous pouvez avoir des commerçants qui viennent aussi des pays voisins et qui investissent au Congo. Et comme justement, il y a un très grand libéralisme dans ce domaine, eh bien, ils vont exploiter les populations.
On pense souvent aux grandes entreprises étrangères qui exploitent les mines ou les ressources naturelles.
Alors oui, ça c'est un autre aspect de cet esclavagisme, effectivement. Et ce sont les enfants qui travaillent dans des mines de diamants, des mines d'or ou des mines de coltan, donc ce minerai qu'on utilise pour faire les téléphones portables et les ordinateurs. Et qui alors, eux, effectivement, à travers des réseaux, souvent des réseaux mafieux, font un travail qui est à peine payé et tout ça profite aux multinationales qui ensuite vont racheter ce minerai pour l'exporter, le traiter, etc. à l'étranger. Et là, on peut dire que cet esclavage est entretenu par la demande extérieure avec des complicités locales.
Les multinationales eux-mêmes sont quand même tenues de respecter un certain standard, des normes, de conditions de travail pour leurs employés. Là, niette.
Et en général, les entreprises multinationales préfèrent investir dans des pays où l'État est encore fragile ou insuffisant. Alors actuellement, le gouvernement congolais essaye, lui, de favoriser une traçabilité. Il y a des ONG qui essaient de venir sur le terrain. La question, c'est qu'il faut que les nationaux ne piratent pas le projet parce qu'il y a trop de gens qui ont intérêt, parce que ça n'arrive pas, cette traçabilité. Mais il y a une volonté actuellement, entre autres sous la pression des organismes internationaux, etc., pour qu'effectivement il y ait une traçabilité et qu'on arrête cette exploitation. Le gouvernement essaye également de faire quelque chose, mais évidemment dans un pays aussi immense et où il y a tellement de gens qui ont des réseaux parallèles, c'est très difficile à mettre en pratique.
Le père Bernard Hugeux, missionnaire en RDC, interrogé par Marie Duhamel. Place à présent à notre rubrique « Livre pour Dieu ». Sœur Catherine Aubin s'entretient cette semaine avec Rémi Valero, dominicain, membre de l'équipe de recherche sur les mystiques rhénans, directeur du programme culturel et spirituel « Le Rhin mystique » du diocèse de Strasbourg. Il vient de publier le recueil de sermons d'un ami de Dieu, Jean Toller, un voyage aux confins du temps et de l'éternité.
Frère Rémi Valero, vous avez fait le condensé des sermons de Jean Toller. Jean Toller, vous le qualifiez d'ami de Dieu, de maître de vie, de mystique rhénan. Jean Toller, c'est tout ça ?
Jean Toller est un homme né au XIVe siècle dans la vallée rhénane et plus particulièrement à Strasbourg. C'est un frère dominicain qui, dans son jeune âge, est rentré au couvent Saint-Barthélemy, où il a été à l'écoute de Maître Eckhart. Maître Eckhart, maître en théologie et fondateur de la mystique rhénane, dont il a par ailleurs poursuivi la tâche de l'accompagnement des moniales. Jean Toller est devenu, pour toutes ces moniales, un maître de vie. Un maître de vie non seulement pour des moniales dominicaines, mais aussi pour celles qu'on appelle les béguines. Et donc Jean Toller prêche tout autant à des moniales qu'à des laïcs, qui ont reconnu en lui et un véritable ami de Dieu, c'est-à-dire une personne qui, au milieu du monde, vit une communion spirituelle avec tout et chacun.
Qu'est-ce qu'un ami de Dieu ?
C'est une personne qui se met à la suite du Seigneur, d'une part, et qui vit une communion spirituelle avec ses frères en humanité, d'autre part. Alors, au XIVe siècle, cela s'est traduit par une communion spirituelle qui regroupait des frères dominicains, des prêtres séculiers, des sœurs dominicaines, des moniales, des religieux, des religieuses et des laïcs, qui, par échange de courriers, par échange de textes, par le souci de porter la prière des uns et des autres, ont constitué une petite communauté quasiment charismatique au XIVe siècle dans la région de Bâle et qui a essaimé dans toute la vallée rhénane. Car il ne faut pas oublier que ces amis de Dieu, et Jean Toller le premier, sont des hommes et des femmes du siècle de la peste noire, cette peste qui sévit dans toute l'Europe. Et quand tout un monde s'écroule autour de soi, ces hommes et ces femmes ont trouvé leur enracinement en Dieu, celui qui est à la racine de toute vie entre ciel et terre. Et ces amis de Dieu, dès lors, ont traversé toutes ces difficultés du siècle.
Revenons maintenant sur les sermons de Jean Toller. Ces sermons, que sont-ils ? Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Ces sermons proposent un véritable voyage. Un voyage au fond de l'âme. Jean Toller invite à se réformer soi-même, dès lors à faire un voyage en soi, en intériorité, là où se trouve l'étincelle de Dieu, l'étincelle de l'âme, qui est un brasier pour l'homme. Et pour que cette étincelle de l'âme puisse se déployer, l'homme doit faire œuvre de tout dépouillement. Donc enlever tout obstacle qui ne permettrait pas à cette étincelle de l'âme, Dieu lui-même, de se déployer en l'homme.
Pour terminer, Rémi Valero, est-ce que vous pouvez nous donner une image que Jean Toller emploie facilement pour faire comprendre justement ce grand voyage à l'intérieur de nous-mêmes ?
Alors, parmi les images que Jean Toller utilise, c'est le Rhin. Le Rhin, il faut l'imaginer se déployer dans la vallée. Et le Rhin, si on y oppose un barrage et qu'on retient ses eaux et que tout à coup on détruise ce barrage, les eaux se répandent dans toutes les vallées. Et dès lors, il en est de même dans la vie, dans l'esprit. Dieu, si nous ne lui opposons aucun obstacle, peut se répandre au plus profond de nous-mêmes. Et cette vallée que nous lui offrons est dès lors, au sens augustinien du terme, capacité de Dieu, une capax dei. Et l'homme est en réalité une capax dei. Comme dit Jean Toller, toute chose porte l'empreinte du pied de Dieu, mais seule l'âme humaine est capacité de Dieu. Ce voyage au fond de l'âme et de retrouver cette identité même de l'âme, une capacité pour Dieu.
Je vous laisse maintenant en compagnie du Père Pascal Montavite pour le commentaire de l'Évangile de ce dimanche 3 novembre, le 31e du temps ordinaire. Évangile selon saint Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus traversait la ville de Jéricho. Un homme du nom de Zachée, le chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus.
L'évangile de ce jour nous raconte comment Zachée, le chef des collecteurs d'impôts, est entré dans la joie de celui qui est sauvé, au moment même où Jésus lui apprend qu'il doit, aujourd'hui, demeurer chez lui. Ce récit met en lumière les différentes étapes de la conversion. Voyons cela plus précisément. Tout d'abord, il est dit que Zachée cherche à voir Jésus. Comme il n'y arrive pas, il court en avant et grimpe sur un sycomore. Cette histoire est donc bien différente de celle d'un autre collecteur d'impôts que le Seigneur a appelé. En effet, Matthieu était lui assis au bureau de la douane. Jésus passe et l'appelle. De son côté, Zachée court. Il a un grand désir de voir Jésus. Ce désir, c'est déjà Dieu qui l'a déposé dans son cœur. Tout homme a envie de connaître le Seigneur, de toucher l'infini. Mais parfois, nous laissons ce désir être étouffé par les occupations incessantes de chaque jour. Zachée a su arrêter son travail et courir afin de voir ce Messie dont tous parlent. Il a écouté la voix de son cœur qui lui dit de chercher Dieu sans cesse, d'être attentif à sa présence. Tel est bien le point de départ de la conversion, qu'elle soit radicale lorsqu'un homme change complètement de vie, ou quotidienne lorsque nous essayons de suivre toujours plus fidèlement le Seigneur. Ensuite, il est important d'être attentif au déroulement du récit. C'est d'abord Jésus qui lève les yeux et dit « Zachée, descends vite, il faut que j'aille demeurer chez toi ». Et ensuite, c'est Zachée qui accueille Jésus avec joie et dit « Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus ». Avant donc que Zachée ait décidé de mettre de l'ordre dans ses comptes, Jésus le regarde et lui demande de l'accueillir. En d'autres termes, les œuvres ne précèdent pas le salut. Jésus accorde gratuitement la vie éternelle à quiconque le cherche en se décentrant de ses activités pour se tourner vers lui. D'un point de vue comptable, l'engagement de Zachée semble bien audacieux et laisse supposer qu'il était très riche. Mais cette générosité dont fait preuve celui qui vient de rencontrer le Seigneur témoigne du fait que le vrai trésor, c'est le Christ lui-même. Enfin, l'histoire de Zachée est une histoire qui parle à beaucoup d'hommes, car rien ne semble préparer ce collecteur d'impôts à une telle conversion. Tout d'abord, il habite Jéricho, une ville qui, dans l'Ancien Testament, fut détruite car elle s'opposait à l'entrée en terre promise des Hébreux. Ensuite, il n'est pas un simple collecteur d'impôts, mais il en est le chef. Il travaille donc pour l'envahisseur romain. Enfin, d'un point de vue symbolique, sa petitesse peut évoquer aussi toutes les incapacités que l'homme peut mettre en avant dans sa recherche de Dieu. « Je n'en suis pas digne, je n'en suis pas capable. » Avec un brin d'ironie, cet homme s'appelle Zachée, c'est-à-dire celui qui est juste, honnête. Mais cette justice, Dieu seul peut la lui donner, car par lui-même, Zachée est simplement un voleur. Ainsi donc, exprimer le désir de connaître Dieu afin de laisser Jésus s'inviter chez nous entraîne une conversion radicale. N'est-ce pas là une belle image du baptisé qui se rend à l'Eucharistie du dimanche? Courir à l'église afin d'écouter Jésus nous parler dans les saintes Écritures et nous donner son corps en nourriture pour la vie éternelle. Cette conversion de Zachée, nous pouvons donc la vivre nous aussi chaque dimanche au cours de la messe.
C'est la fin de ce magazine. Au nom de toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation, merci de l'avoir suivi.